franceinter.fr.
Le journal Laurent Grollet, bonjour.
Bonjour. Chris Froome est-il un grand vainqueur du Tour de France, celui qui va décrocher sa quatrième couronne cet après-midi, n'a pas remporté une seule étape cette année. Oui, c'est un beau vainqueur, nous dira Christian Prudhomme, le directeur du Tour, dans ce 13h. Et puis nous serons avec Gérald Hinault, qui a déjà pris position sur les Champs-Élysées 5h avant l'arrivée des premiers coureurs. Regonfler le moral des troupes, la ministre des Armées Florence Parly fait la promotion du budget 2018 en hausse de près de 2 milliards d'euros. Elle participait hier au triomphe des écoles de Saint-Cyr, reportage à suivre. Dans ce journal, la réforme des aides au logement qui fait mal, 5 euros de moins pour chaque bénéficiaire dès le mois d'octobre. On s'attaque aux plus pauvres pour la Fondation Abbé Pierre. Un député soutient la mesure dans ce journal, c'est Jean-Noël Barrot, député En Marche. Tension toujours aussi vive à Jérusalem où le Premier ministre réunit son cabinet cet après-midi. L'équipe de France féminine de football, loin d'être impériale à l'Euro. Et puis Avignon qui célèbre le temple du Chêne Noir, histoire d'un lieu mythique qui fête son demi-siècle avec Stéphane Capron.
France Inter.
Dernière étape donc Paris, fin du Tour 2017 avec la classique sur les Champs-Élysées au départ de Montgeron, coup d'envoi tout à l'heure à 16h50. Le départ devant le réveil matin, le café qui avait donné le coup d'envoi du premier Tour de France il y a maintenant 104 ans. 103 km, 8 tours dans Paris avant la dernière ligne droite sur les Champs-Élysées et un finish prévu après 19h ce soir. Pas de suspense, c'est bien Chris Froome qui devrait, sauf catastrophe, remporter un quatrième tour. Sans une seule victoire d'étape au compteur, Christian Prudhomme, qui dirige la Grande Boucle depuis 10 ans, est revenu sur cette édition 2017, juste avant de prendre ce matin l'avion pour Paris. L'hommage de Christian Prudhomme à Chris Froome.
C'est un beau vainqueur, avec une panoplie différente de celle qu'on lui connaissait il y a encore 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'a plus ce démarrage en montagne. En revanche, sa panoplie est beaucoup plus large, son registre est beaucoup plus large, il est capable d'attaquer en descente, il va grignoter absolument partout, il ne lâche vraiment rien, on emploie souvent cette expression, mais lui, c'est certain, il ne lâche rien, dès qu'il y a la moindre possibilité, il va aller prendre du temps et puis il s'appuie bien évidemment sur une équipe très très puissante.
Qu'est-ce qui manque à ce champion pour prendre l'ampleur qu'ont pu avoir ses prédécesseurs qui sont arrivés à 4 victoires dans le Tour? On a l'impression que sa personnalité reste un peu enfermée par rapport au palmarès qu'il est en train de se construire sur le Tour de France.
Il a été sifflé, oui en effet, hier. Il a été en revanche très très bien accueilli, sans doute beaucoup mieux pendant la quasi-totalité du Tour de France. Alors qu'est-ce qui lui manque? Je ne sais pas, parce que je dois reconnaître que je lui sais gré de faire des vrais efforts pour parler français, pour être accessible avec le public. Il a toujours un sourire. J'ai le souvenir des mots qu'il avait écrits lors de sa première victoire. J'avais lu quelque part qu'on l'avait écrit pour lui, mais j'étais assis à côté de lui dans l'avion quand il l'a fait. Il a écrit devant moi. Il m'avait même demandé de corriger le texte. Donc c'était vraiment lui qui l'avait fait, où il évoquait sa mère, etc., qui aurait aimé voir ça. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très poli, très très bien élevé. Je sais pas ce qui lui manque. Pas grand chose. Je pense que justement le fait de, vous savez, quand les champions sont un peu moins dominateurs, on les aime davantage. C'est très humain, ça. Je pense que justement, ça va aussi l'aider maintenant quand on
est. Il vous faut un duel, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, Christian Prudhomme.
Bien sûr, le duel c'est le rêve du sport, des organisateurs de sport, dans le cyclisme ou ailleurs. Et là, on l'a eu un peu. On espère l'avoir davantage dans les années qui viennent.
Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France avec Jérôme Cadet. Cette concurrence dont parlait Christian Prudhomme, c'est évidemment celle de Romain Bardet, 3e du général, avant, pourquoi pas, de faire beaucoup mieux dans les prochaines années. Pour cela, il faudra bâtir une équipe à la hauteur des Sky de Chris Froome. Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R La Mondiale, l'équipe de Romain Bardet, était l'invité d'Inter ce matin.
Il faut monter en puissance chaque année. Donc c'est un, vous savez, le Tour de France, évidemment, c'est ce qui est mise en avant, c'est la lumière, mais tout en amont du Tour de France, il y a un travail qui est énorme. À partir du mois de novembre, quand on commence à travailler sur la saison suivante, je veux dire, il y a des stages, il y a des études en soufflerie, il y a énormément d'ingénieurs, d'ingénierie technologique, et voilà, donc tous ces petits détails qui s'additionnent les uns les autres font que l'équipe progresse. On a progressé dans l'approche de la préparation physique, dans l'approche de la préparation en haute altitude. Romain est un garçon qui n'est jamais rassasié, qui veut toujours aller plus loin. Donc voilà, tous ces petits détails vont faire que petit à petit on va gommer cet espace qui est avec la Sky. Avec notre histoire, faut quand même se rappeler qu'on a une équipe qui est pratiquement issue du centre de formation, donc des jeunes Français qui ont suivi la filière de l'équipe. et qui se retrouve à contrarier la meilleure équipe du monde. Donc je crois qu'on a toutes les raisons d'être fiers. Il faut pas s'arrêter là, il faut continuer à travailler, à bosser, et puis essayer de un jour de remporter cette épreuve que tant de Français voudraient voir au palmarès à nouveau d'un jeune coureur français.
Vincent Lavenue dans la matinale d'Hélène Fillion. Rejoint maintenant Géraldine Allot sur les Champs-Élysées. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Évidemment, les premiers mordus de vélo sont déjà là. Ils ne sont pas en retard puisque les premiers coureurs sont attendus autour de 18h cet après-midi.
Oui, les Champs-Élysées ressemblent à une kermesse géante avec des camions sonos tous les 50 mètres qui crachent de la musique, des vendeurs de souvenirs en tout genre et des spectateurs donc venus aux aurores pour avoir la meilleure place. Comme Fabien, il a 16 ans, il a un maillot à pois sur le dos, il vient du Pas-de-Calais.
C'est déjà énorme que je sois sur les Champs-Élysées, c'est la première fois qu'on vient, donc c'est déjà super. Voir le tour avec un temps magnifique, de voir toute cette ambiance, c'est déjà super. Et une victoire française sur Paris, ce serait déjà bien.
Alors parmi les habitués de l'arrivée du tour sur les Champs-Élysées, la palme de l'assiduité revient sans doute à Hélène.
35 ans que vous venez ici sur les Champs-Élysées.
À l'arrivée des Champs, oui. J'étais jeune au début, mais...
Alors cette année, elle est particulière ou pas?
Ah oui, cette année, il y a eu quand même du suspense. Il y a des années, il n'y avait pas de suspense. Cette année, il y en a eu. Bon, ben, c'est pas un français, mais c'était beau. C'était un beau tour. On a vibré, en tout cas, cette année.
Aux côtés d'Hélène, accrochée à la barrière depuis 9h ce matin, Ralph, un Allemand, avec sa chaise pliante, sa glacière et sa connaissance implacable de la géographie parisienne.
You can see the whole Champs-Élysées.
D'ici, vous pouvez voir tous les Champs-Élysées, de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe.
These places are rare.
Cette place est très rare. Ailleurs, vous vous retrouverez derrière les arbres et vous ne voyez que 10 mètres de bitume, pas plus. On va bien s'amuser.
Pour l'instant, sur les Champs, le ciel menace, mais il ne pleut pas, pourvu que ça dure.
Géraldine Allot pour France Inter avec Éric Audra. L'annonce n'est pas passée inaperçue, même si nous sommes en plein cœur de l'été des vacances pour beaucoup de politiques. La baisse de 5 euros pour tous et chaque mois des aides au logement ne passe pas. 140 millions d'euros d'économies sur les pauvres, c'est un message, s'alarmait ce matin Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Les aides au logement qui ne sont pas efficaces est venu plaider pour sa part dans la matinale d'Inter le nouveau député La République En Marche, Jean-Noël Barrot.
Ça fait 40 ans qu'en France, nous avons des aides personnalisées au logement, dont l'objectif est noble, il est de permettre à chacune et à chacun d'être bien logé dans notre pays. Sauf que les APL ont fait la démonstration de leur inefficacité. Les APL ont conduit à une inflation des loyers. Quand on donne 1 euro d'APL, il y en a 50 centimes à 70 centimes qui se retrouvent dans des loyers plus élevés. Et donc la solution au problème, c'est de refonder, de repenser de fond en comble la politique du logement. Ça veut dire essayer de décomplexifier ces aides-là, puisque vous le savez, en plus des 18 milliards d'euros, il y a 600 millions d'euros qui sont consacrés à la gestion par la CAF de ce dispositif qui est très complexe. Mais la mère de toutes les réformes, c'est bien entendu de faire baisser les loyers. Et comment est-ce qu'on fait ? On augmente l'offre de logement. Mais l'essentiel pour résorber le déficit entre l'offre et la demande de logement, c'est bien de relancer la construction de logements sociaux en particulier, et de logements à destination des étudiants. C'est un engagement fort de la majorité présidentielle.
Le député La République En Marche, Jean-Noël Barrot. Florence Parly joue la défense dans le journal du dimanche. La ministre des Armées revient dans le détail sur la coupe budgétaire de 850 millions d'euros qui a conduit, vous le savez, à la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers cette semaine. La ministre qui veut ménager le moral des troupes rappelle que le budget de la défense progressera d'1,8 milliard l'an prochain. Florence Parly qui participait hier au triomphe des écoles Saint-Cyr dans le Morbihan. 10 000 visiteurs ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle Lola Fourmi, la ministre, a tenté de convaincre.
Le triomphe, c'est un hommage au creuset de l'armée française. Plus de 400 élèves officiers s'y voient remettre les fameuses épaulettes dorées, celles de sous-lieutenant et de lieutenant. Mais Florence Parly assure que le monde militaire ne doit pas s'inquiéter.
J'ai toutes les raisons de pouvoir rassurer ceux qui pourraient être inquiets, puisque nous aurons en 2018 le meilleur budget dont ils disposeront depuis plus de 10 ans.
En attendant, elle le concède, les économies vont se faire sur certains programmes et investissements. Alors sur le stand de présentation du HK416, le remplaçant l'opération du FAMAS. Michael est inquiet. L'ancien réserviste est aujourd'hui dans la gendarmerie et raconte les difficultés sur le terrain.
On est là pour assurer la protection des civils et puis on nous coupe l'herbe sous le pied, quoi. On nous empêche de faire le boulot. Voilà, on fait avec système D, quoi. Pour certains endroits, ouais, c'est un peu la dèche. Ça peut être avec du matériel entre guillemets défectueux, du manque de matériel tout simplement. Et puis voilà.
Face aux feux d'artifice, aux balles et aux honneurs, les proches d'élèves officiers pensent à leur avenir et les imaginent avec des gilets pare-balles défectueux, des équipements usés. Comme Sabrina, ils craignent les conséquences de la baisse du budget.
Beaucoup, oui, parce que ça peut être nos frères, nos maris, voilà, nos enfants. Donc c'est oui, c'est inquiétant.
Mais l'armée de terre, c'est un bateau qui suit sa trace, confie un recruteur militaire et qui, malgré les aléas politiques, reste et restera sur son chemin. Lola Fourmi, France Bleu Armorique pour France Inter.
Autre ministre qui s'exprime dans le journal du dimanche, Jean-Michel Blanquer en charge de l'éducation nationale et qui a peut-être découvert ce matin le surnom dont beaucoup l'affublent, surnom de Contrôle Z, cette manip qui permet d'effacer sur un clavier les rythmes scolaires notamment. Un tiers des écoles repasse à la semaine des 4 jours dès la rentrée depuis que Jean-Michel Blanquer a redonné le droit de choisir aux écoles. Le ministre assure que la rentrée sera la sienne avec le dédoublement des classes de CP du réseau d'éducation prioritaire, mais aussi le programme Devoir fait, les collégiens dès la Toussaint qui feront leurs devoirs avant de rentrer chez eux. Bonne idée, mais avec quels moyens, s'interroge Benoît Test du SNES.
Ça va être compliqué à mettre en place effectivement concrètement dans les établissements parce qu'il faut des personnels et plus que des personnels, il faut former parce qu'on nous parle aujourd'hui de services civiques qui vont éventuellement assumer cette mission. Avec quelle formation, comment est-ce qu'ils vont prendre connaissance du fonctionnement d'un établissement, de ce dont ont besoin les élèves. Donc c'est vrai que dès la Toussaint, ça semble un peu compliqué. Ça peut être une mesure intéressante, effectivement, que les élèves fassent les devoirs à l'école, mais surtout, on ne résoudra pas les problèmes d'inégalité, etc., par ces seules mesures. Nous, ce qu'on dit, c'est que surtout, il faut travailler dans la classe, il faut travailler sur ce qui se passe dans la classe. Les devoirs surveillés, c'est très bien, ça peut être un plus. Mais la problématique principale, nous semble-t-il, du collège, c'est la manière dont les enseignements se déroulent, les contenus d'enseignement, la manière dont on peut justement diversifier dans la classe.
Pendant le temps scolaire, pour vous, les devoirs, ce n'est pas du tout la priorité.
Ça fait partie de la réflexion, mais ça ne doit pas être effectivement la seule priorité.
À Benoît Test du SNES avec Olivia Ferrandi. On pensait qu'une fois la grande prière du vendredi passé, la tension retomberait un peu à Jérusalem et en Cisjordanie. La journée d'hier a prouvé le contraire avec 2 nouvelles victimes côté palestinien, en total 5 morts en 2 jours contre 3 côté israélien. Alors les autorités internationales tentent de faire entendre leur message de paix au milieu du désordre. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain et de son côté, Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de sécurité aujourd'hui. Le chef du gouvernement, qui se veut jusqu'à présent inflexible sur la demande palestinienne, de retrait des portiques détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Correspondance de Marine Vlaovic.
Ce sont des autorités israéliennes sous pression qui vont tenter de trouver une sortie de crise lors d'une réunion du cabinet de sécurité qui doit se tenir en fin d'après-midi. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou pourrait examiner des alternatives aux détecteurs de métaux contestés installés unilatéralement par Israël aux abords du lieu saint il y a une semaine, sans pour autant céder sur l'existence de mesures de sécurité considérées comme indispensables par l'État hébreu. Pas sûr donc que cette réunion puisse endiguer la colère de la rue palestinienne. Alors qu'hier, des affrontements meurtriers ont éclaté à Jérusalem-Est et en Cisjordanie et que de nouvelles manifestations sont annoncées en fin de journée. De son côté, la communauté internationale s'inquiète de cette escalade de la violence. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain en urgence pour évoquer cette crise de l'esplanade des mosquées. Ramallah, Marine Vlaovic, France Inter.
Une découverte macabre dans la remorque d'un camion à San Antonio, au Texas. 8 cadavres sortis d'un camion qui stationnait sur un parking. 28 blessés ont pu être secourus. Cela ressemble à un trafic d'êtres humains, a commenté le chef de la police, évoquant une scène d'horreur à l'intérieur de cette remorque. Les 50 bougies d'une institution à Avignon, les 50 ans du Chêne Noir, dirigé par le metteur en scène Gérard Jelas. Infatigable créateur, pionnier du off d'Avignon, Gérard Jelas dirige le Chêne Noir depuis 67, un théâtre d'art populaire fidèle à l'esprit de Jean Villard. Une institution, Stéphane Capron, qui a vu le jour il y a un demi-siècle dans la douleur.
Hier soir à Avignon, une manifestation s'est déroulée à la suite d'un arrêté préfectoral interdisant la représentation d'une pièce à Villeneuve-les-Avignon.
La carrière de Gérard Jelas débute par le plus gros scandale de l'histoire du festival. Sa pièce, La paillasse au sein nu, est interdite au beau milieu de l'été 68 pour risque de trouble à l'ordre public et atteinte à la personnalité du du chef de l'État. Le jeune homme devient une vedette à Avignon et fait sortir le théâtre dans les quartiers dans les années 70.
Il y a bien longtemps qu'on fait un théâtre qui veut être un théâtre du peuple et pour le peuple. Mais si on sait aussi que si on ne veut pas que ça reste à l'état de proposition et de pure parole, on sait qu'il faut aller vers les gens qui ne peuvent pas venir dans les théâtres pour l'instant, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les HLM. Et c'est pour ça que nous venons ici durant l'été.
Cet été, Gérard Gelas met en scène une pièce sur les migrants.
Ici, il y a beaucoup de pauvreté, etc. Nous avons nos propres migrants de l'intérieur, qu'on essaie plus ou moins de camoufler, qu'on déplace de territoire à l'autre, mais où on ne résout jamais le problème. Et le problème, il est très simple. Hein. Autant je suis d'accord à l'adage chinois, quand les gros migrissent, les pauvres meurent, mais j'ajouterai à cet adage, qui peut être aussi dangereux, c'est que il y a des gros qui, à mon avis, ne mourraient pas si on leur en prenait un peu plus. Quoi.
50 ans après, Gérard Gelas est resté le même, il est toujours autant anarchiste.
Et la pièce Migrant se joue au Chêne Noir jusqu'au 30 juillet dans le cadre du OFF.